France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
L'autre Versailles, un palais de la République et un lieu de mémoire. Qu'avons-nous dit ? Après avoir affirmé, Versailles, c'est Louis XIV, en réalité pas grand-chose, ou du moins pas assez. Car Versailles, bien sûr, c'est aussi Louis XV, Louis XVI et toute la cour. Et puis, c'est Versailles après la Révolution. Mais qu'en est-il de Versailles sous la République quand le palais royal, puis impérial, devient palais national, véritable lieu de mémoire. Détenteur lui-même de tant de lieux de mémoire. La galerie des glaces, celle des batailles, la salle du congrès, l'occasion d'ailleurs de rendre hommage à Pierre Nora. Pierre Nora en visite justement dans la galerie des batailles, c'était en 2013.
Qu'est-ce que retient globalement ce tourisme de masse de ce qu'il voit en une après-midi ? Sans oublier que Versailles, c'est d'abord et aussi les jardins. Qu'est-ce que ces gens qui sont autour de nous, combien me disiez-vous, monsieur, 20 000 par jour ?
Parfois 20 000 par jour, oui, en haute saison.
20 000 par jour, ressort.
C'est un mystère, il faudrait leur demander en fait.
On peut parier que surtout ils sont très fatigués.
Christophe Leribaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du château de Versailles. Quand on entend Pierre Nora s'exprimer ici, c'est au micro d'Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire, dire les visiteurs sont fatigués. C'est fatigant, Versailles, à visiter ?
Il faut dire qu'on y a rajouté la salle du congrès. Au-delà de la galerie des batailles, pour poursuivre le parcours justement jusqu'à nos jours.
Avec cette volonté de votre part, de la part de l'institution du château de Versailles, de mettre en avant le Versailles de la République, c'est-à-dire ?
Il y a 150 ans, on votait à Versailles, dans l'opéra, l'amendement Vallon et puis les suites des lois constitutionnelles. Donc il m'a semblé que cette année, c'était important de remettre tout particulièrement à l'honneur cette période. Mais la République commence bien avant, dans la salle des Jeux de Paume, qui aussi est ouverte au public et qui appartient au château. Et puis ça continue avec des changements dans la Constitution, avec plein d'événements. Donc ça fait vraiment partie de notre patrimoine, au-delà de Louis XIV et ou de Louis XVI.
Oui, c'est ça, c'est un palais de la République, il faut le rappeler, parce que Versailles, c'est notre palais commun, c'est notre palais à tous. Et pour parler de ce lieu de mémoire avec nous aujourd'hui, Jacqueline Lalouette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lille, grande spécialiste hein, de tous ces symboles et notamment ceux de la République. Et Fabien Permann, bonjour.
Bonjour.
Historien, vous êtes l'auteur de ce Versailles des présidents, 150 ans de vie républicaine chez le roi Soleil. C'est quoi ce Versailles des présidents ? C'est dire que Versailles n'a jamais été abandonné par la République ou, pour le dire autrement, ce n'a pas été considéré uniquement comme étant un musée.
C'est surtout de dire que Versailles, c'est la continuité de l'histoire de France. Ce n'est pas parce qu'on a la chute des régimes monarchiques successifs en 1848, en 1870, que Versailles cesse d'être un palais utilisé par le pouvoir, qu'il soit parlementaire, avec le Parlement de l'Assemblée nationale en 1871 qui s'y installe, ou que ce soit le pouvoir exécutif avec les présidents successifs qui vont en effet investir l'ancien palais royal.
On utilise cette expression de lieu de mémoire aujourd'hui extrêmement facilement d'ailleurs. Jacqueline Lalouette, c'est quoi un lieu de mémoire ?
Alors, c'est un concept. Ce concept a été forgé par Pierre Nora avec son immense ensemble qu'il qualifiait d'ensemble cathédralesque et labyrinthique, où il a voulu associer ce qui pouvait, comme il l'a dit lui-même, ce qui pouvait montrer la marque du passé dans le présent, à partir du plus immatériel, du plus idéal, jusqu'au plus matériel et même du plus trivial, disait-il, c'est-à-dire un humble manuel scolaire, un monument extraordinaire comme le Panthéon, de grands textes, mais des textes apportés des enfants de l'école primaire, et donc recueillir toutes ces traces, les hiérarchiser, les structurer, les faire dialoguer ensemble pour arriver à construire une mémoire telle que nos sociétés peuvent avoir maintenant une mémoire, puisqu'il oppose la mémoire de nos types de sociétés à ce qu'il appelle la mémoire vraie des sociétés primitives où on se transmet de manière éternelle et absolument fidèle ce qui vient du passé. Alors que pour nous, La mémoire, elle n'est faite que de recueil, de traces, et est le fruit aussi de tri. Donc c'est tout ça qu'il a voulu faire dans ces lieux de mémoire. Donc si je peux dire quelques mots sur cet ensemble. Alors Pierre Nora lui-même dit qu'il a réuni 130 auteurs. Comme je ne me fie jamais à personne, j'ai recompté. En fait, il n'y a pas 130 auteurs, il y a 130 articles. Mais Pierre Nora lui-même a fait 6 ou 7 articles. Plusieurs historiens en ont fait 3, d'autres en ont fait 2. Il y en a 3 qui ont été faits collectivement par 2 historiens. Donc il faut
recompter.
Recompter. En fait, il y a une centaine d'auteurs pour en gros 130 communications. Et il y a beaucoup d'auteurs qui viennent des années, enfin qui étaient nés dans les années 10 et les années 20, même un avant 1910, c'était le doyen Carbonnier, un certain nombre dans les années entre 10 et 20, beaucoup dans les années 20, qui sont presque tous morts, pas tous, il reste une éminente survivante, et puis beaucoup de gens des années 30, des années 40, et puis une petite brochette de plus jeunes des années 50, mais ce que je tiens à souligner, ça ne pourrait plus se passer comme ça maintenant. Sur 100 auteurs, il y a 13 femmes.
Eh oui. La survivante que vous évoquez, Mona Ouzouf, voilà.
Non, parce que Mona Ouzouf, elle est des années 30. Pour les années 20, je pensais à Michel Perrault.
Michel Perrault.
Voilà.
Et vous avez raison de le souligner, on n'écrirait plus l'histoire de la même manière. Et c'est tant mieux avec l'idée que ces lieux de mémoire de Pierre Nora qui paraissent en 1984 pour le premier volume, La République, sont eux-mêmes devenus des lieux de mémoire. D'ailleurs,
oui.
Est-ce que Versailles apparaît dans les lieux de mémoire? J'imagine, on ne peut pas faire autrement, Fabien Opperman.
Bien sûr, de mémoire. Je n'est pas vérifié, mais il me semble qu'il y a au moins 2 contributions,
oui,
dont l'une en effet d'Hélène Himmelfarb, qui évoque justement ce glissement de la mémoire du château de Versailles, d'un lieu qui symbolise dans l'esprit collectif la monarchie, vers un lieu qu'on va utiliser aujourd'hui. Hélène Himmelfarb, dans les lieux de mémoire, évoque une anecdote où 2 femmes visitent le château de Versailles après la victoire de François Mitterrand en 1981 et vont dire à leur guide « Nous sommes venus voir ce lieu une dernière fois avant qu'on le détruise ». Et c'est formidable parce qu'il y a vraiment ce symbole d'un attachement à une histoire politique plutôt réactionnaire, alors qu'en réalité, et c'est le sujet donc évoqué par le château de Versailles ces temps-ci, Versailles ne cesse d'être un objet républicain.
Parce que cette contribution que vous évoquez d'Hélène Himmelfarb, c'est Versailles, fonctions et légendes. Puis il y en a d'autres, vous l'avez dit, il y a Versailles, l'image du pouvoir, ça c'est Édouard Pommier qui l'a écrit. Puis on a ces fils qui se tirent vers d'autres articles, notamment autour de la cour.
Jacqueline, oui, cette remarque est d'autant plus stupide, j'allais dire, qu'en 1794, la convention, c'est Hélène Himmelfarb qui le dit, la convention a décidé que le palais royal de Versailles, devenu palais national, devait être inscrit dans la liste des maisons royales devant être entretenues et conservées par la nation. Donc, cette remarque...
Voilà, on ne peut pas détruire Versailles en 1980, Christophe Leribaud. Dans cette réflexion sur l'histoire et la mémoire, vous le constatez, président du château de Versailles, les visiteurs, les visiteuses viennent pour ce qu'on leur a transmis de Versailles, c'est-à-dire le palais de Louis XIV. C'est tout un travail à effectuer pour dire, mais non, regardez, il y a d'autres Versailles à l'intérieur de ce Versailles que vous allez chercher. Comment faire?
Alors c'est d'autant plus nécessaire que nous avons plus de 80% de visiteurs étrangers qui viennent principalement pour la beauté des jardins, pour les dorures, l'image de Louis XIV, peut-être même plus maintenant de Marie-Antoinette. Et pour faire revenir davantage de Français, c'est important de rappeler qu'au-delà de l'émerveillement artistique, il faut continuer à avoir des étoiles dans les yeux lors de sa première visite. C'est un haut lieu de l'histoire de France qui dépasse les règnes des 3 derniers Bourbons, Louis XVIII n'ayant pas pu finalement revenir vraiment à Versailles, même s'il le souhaitait. Et donc cette histoire du XIXe siècle, jusqu'à maintenant, avec l'inscription de l'IVG dans dans la Constitution, c'est vraiment un haut lieu iconique.
C'est là que ça s'est passé, c'est à Versailles.
Voilà, le 4 mars de l'année passée. C'est un lieu très vivant qui doit vraiment rester inscrit dans notre imaginaire de la France. Même si c'est très très bien qu'il soit très ouvert sur l'étranger, il y a aussi beaucoup évidemment d'accueil, de diplomatique. C'est un lieu très très utilisé et qui retrouve sa fonction telle que Louis XIV l'avait imaginé pour un peu épater tout le les nations.
Fabien Opperman, le Versailles des présidents, le titre de votre ouvrage, c'est tout à fait ça. C'est que les présidents de la République, sur les 150 ans de vie républicaine qui vous intéressent, donc c'est de la Troisième République à aujourd'hui, c'est un lieu qui est un lieu de cérémonie, un lieu de la République.
C'est un lieu de la République, alors un petit peu par hasard, hein, puisque en 1871, au moment de l'éclatement de la Commune, finalement, l'Assemblée nationale, puis le gouvernement d'Adolphe Thiers vont se réfugier à Versailles, et en fait, ils ne vont jamais vraiment le quitter. On va utiliser le château de Versailles à des fins, comme le disait Christophe Leribeau, à des fins diplomatiques, à des fins pour épater ses homologues étrangers, pour les honorer aussi, parce qu'en recevant à Versailles, on offre ce que la France a de plus beau, a de plus ancien. Ça offre également, et ça pour les débuts de la République dans les années 1870, ça offre également le sentiment de la continuité. Avec, on va dire, toutes ces chutes de régime, la France pouvait apparaître aux yeux de partenaires économiques comme un allié un peu instable. En réalité, lorsqu'on reçoit à Versailles, on reçoit dans 400 ans d'histoire. Et ça, ça n'est pas anodin.
Oui, c'est beaucoup, hein, 400 ans d'histoire portée par l'histoire elle-même, on l'a dit, mais par la mémoire et par les mémoires, parce que ce ne sont pas les mêmes. Christophe Leribeau, quand vous nous parliez des visiteurs étrangers, ils viennent voir, vous avez raison, Marie-Antoinette, parce qu'ils ont vu le film de Sofia Coppola, quand d'autres visiteurs viennent voir autre chose. Et puis, il y a ce Versailles un peu oublié, qui est quand même le Versailles de la République. Jacqueline Lalouette, ces symboles de la République sont omniprésents dans notre univers, on les connaît, que ce soit l'hymne, que ce soit le drapeau, c'est même inscrit dans la Constitution. Pourtant, ils ne sont pas... Article 2. Ils ne sont pas associés, pourtant, au château de Versailles.
C'est normal, puisque le décor de Versailles date d'un temps qui n'était pas d'un temps républicain. Néanmoins, quand il y a toutes ces grandes rencontres qui se font à Versailles, il y a, j'ai lu ça dans je ne sais plus quel article, tout un cortège de voitures qui arrive avec la cocarde tricolore. Donc, le bleu, blanc, rouge rentre dans Versailles. Et la Marseillaise est rentrée à Versailles. Parce que, en 1947... après l'élection de Vincent Auriol, quand Jacques Duclos, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire a proclamé le résultat, tous les parlementaires présents, sénateurs et députés, se sont levés et ont entonné la Marseillaise. Et quand René Coty a été élu en 1953, après 13 tours, ça a été très laborieux... Tout le congrès également s'est levé, on peut le voir sur un site de l'INA, et a chanté la Marseillaise.
Au 7e jour de session du congrès de Versailles, à l'issue du 13e tour de scrutin où s'affrontaient les noms de René Coty et de Naegelen, la décision est enfin acquise.
Ont obtenu, messieurs René Coty, 477 suffrages.
Monsieur René Coty est élu président de la République française. Le procès-verbal de séance qui constate cette élection va être remis au nouveau président dans la salle d'investiture. La mission la plus longue et la plus délicate qu'ait eu à remplir un congrès du Parlement est arrivée à son terme.
L'élection de René Coty, président de la République, en décembre 1953, dans les actualités françaises.
J'ai une troisième Marseillaise à votre service.
Ah, dites-nous.
2015, après les attentats de novembre, quand François Hollande se rend à Versailles pour faire une communication devant tous les parlementaires, ce qui était possible depuis 2008, eh bien, il fait un grand discours. Bon, le président commence par dire que le président de la République va arriver, etc. Il arrive, il fait un grand discours. Il dit que la République survivra au terrorisme, etc. Et une fois qu'il a terminé de parler, vive la République, vive la France, il est applaudi et tout le monde chante la Marseillaise.
Christophe Leribaud.
Alors, il faut dire que dans la salle du Congrès, où ces 14 présidents ont été élus, si on regarde un petit peu, si l'œil se balade un petit peu sur le décor, on y voit des grands soleils de Louis XIV. Il n'y a pas de RF, mais des FF comme France. Donc, en 1875, quand on conçoit la décoration de cette salle, il y a surtout des rappels de l'ancien régime, des... On n'est pas au-dessus du perchoir le serment du jeu de paume qu'on aurait pu attendre à cet emplacement, mais l'ouverture des états généraux dans la salle des menus plaisirs, ce qui permet d'avoir Louis XVI sur son trône, il est sûr que la République est entrée à... discrètement, hein, avant de se camper vraiment dans le château.
D'ailleurs, on peut rappeler les origines de cette présence des institutions républicaines à Versailles. Nous sommes après le Second Empire, Napoléon III a chuté lors de la guerre qui l'oppose à la Prusse et la République doit s'installer quelque part. Paris, c'est compliqué, on est en période de guerre, c'est Versailles. Je pense au lieu précisément, mais là au lieu concret, c'est quoi cette salle ?
Alors, en 1871, c'est vraiment le hasard. C'est qu'en effet, les parlementaires qui ont été élus juste avant, hein, au mois de février à Bordeaux, doivent remonter à Paris. Et donc, bon, Paris n'est pas une ville sûre, donc ils décident d'aller à Versailles. Ils vont s'installer d'abord dans l'opéra de Louis XV, parce que bah, ça ressemble un petit peu à un amphithéâtre parlementaire. Et donc, de 1871 à 1875, l'Assemblée nationale, donc unique à l'époque, va siéger dans l'opéra. Et au moment où l'amendement Vallon détermine qu'il y a d'abord un président de la République élu par deux chambres, il faut créer un deuxième lieu pour ce qui va devenir la Chambre des députés, et on va construire au milieu de l'aile du Midi ce grand hémicycle de près de 900 places qui est, et c'est assez savoureux, la dernière construction ex nihilo au sein du château de Versailles et qui va servir en réalité à faire vivre les institutions de la République. Et donc 1875, on va créer un lieu ad hoc pour accueillir la Chambre des députés, le Parlement.
Voilà, parce que pour pouvoir y placer l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, ça fait du monde, hein.
Et d'ailleurs, à chaque congrès, donc tous les 7 ans, tous les parlementaires donc quittent Paris ensemble, depuis la gare Montparnasse qui s'appelait à l'époque la gare de l'Ouest. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui tiennent à assister au congrès dans les tribunes. Donc beaucoup de demandes pour avoir le droit. Et alors, il y a un texte de Pierre de Nolhac que j'ai trouvé sur un site du château de Versailles, justement.
Sublime site du château de Versailles, il faut le dire, parce que c'est plein de ressources
et
d'informations.
Absolument. Oui. Il y a beaucoup de textes très très intéressants sur Versailles, et notamment sur la République à Versailles. Et il y a ce texte de Pierre de Nolhac, où je cite 2-3 lignes. « On voit tous les 7 ans des cordons militaires entourer le château, les grilles du parc se clore dès le matin, et les grands restaurants de la ville regorgés d'élégantes clientèles. C'est la journée du congrès. Au déjeuner politique et mondain, autour des tables fleuries, etc. etc. » Et puis là, j'ai un extrait du siècle du 29 décembre 1885. Le carnaval a commencé cette année plutôt que de coutume. Et le carnaval, c'est le congrès qui s'ouvre le jour même.
Pierre de Nolhac, historien qui a été conservateur du château de Versailles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. D'ailleurs, Christophe Leribaud, comment ça se passe? Parce que quand le congrès se réunit, j'imagine que Versailles, qui est déjà... un palais très vivant, avec tous les gens qui viennent le visiter, d'un seul coup se transforme complètement. C'est quoi la mise en place d'un congrès? Ça doit être quelque chose d'absolument faramineux.
Oui, tout d'un coup, le château est réinvesti par toute l'administration de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi la garde républicaine pour faire accueillir tout le monde. Il y a des salles de presse, enfin, c'est vibrionnant. Moi, j'ai connu ça donc l'année dernière, généralement un lundi. Comme ça, on ne s'en empêche pas la visite dès le lendemain. Ça a été beaucoup plus prégnant à partir de 1871, parce que vraiment, quand le gouvernement s'est installé là, on a réquisitionné des espaces immenses. Il faut imaginer Jules Grévy résidant dans les petits appartements du roi, enfin les députés couchant dans la grille des glaces, des lits de fortune. Mais après ces moments héroïques, l'Assemblée nationale et le Sénat ont conservé des locaux pendant extrêmement longtemps. Les ailes des ministres étaient remplies d'appartements des caisseurs jusqu'à jusque quand même largement dans les années 2000, hein, 2005. Mmh. Et l'opéra qui ne servait plus au Sénat depuis le retour du Sénat au Luxembourg en 1879 n'a été entre guillemets libéré que dans les années 50. Hein. Il était interdit de visite jusque-là. Donc la présence des assemblées a été très forte matériellement. Donc dès le il y a eu un petit conflit évidemment dans les années 1870 entre l'ouverture au public des salles et l'activité. Il y avait une poste dans la grille des batailles. Enfin, c'est très pittoresque. On a plein d'anecdotes à ce sujet.
Bah, ce qu'on voit, le château est réellement vivant en écho à ce qui se passe dans notre histoire.
Il me semble que c'est Élisabeth II qui était présente le jour où on a réinauguré l'opéra qui était refait.
Oui, absolument, c'était en son honneur. Il faut dire qu'entre-temps, le plafond de l'opéra avait été remplacé par une verrière pour donner de la lumière aux sénateurs. Tout était peint en rouge et or hein, depuis Louis-Philippe. Donc c'était l'occasion d'une très grande restauration où ce chef-d'œuvre de Gabriel, quand même peut-être notre plus bel opéra, a retrouvé ses dorures, ses beaux bleus, ses lus, son plafond peint. Effectivement, l'opéra que nous voyons maintenant n'est pas tout à fait celui où se réunissaient l'Assemblée et puis le Sénat dans les années 1870.
Très bien, Perman.
C'est l'élection de René Coty est tout de même, on a entendu cet extrait savoureux, est tout de même assez symptomatique de la difficile cohabitation entre un palais de la République et un musée ouvert au public. L'élection de René Coty, donc en effet 13 tours de scrutin, et surtout 7 jours de fermeture pour le château. Ça veut dire que les touristes qui voulaient visiter le château de Versailles à la fin de l'année 1953, chaque jour, se pressaient devant la grille et on leur disait « Ben non, nous sommes toujours en congrès ». Et donc plus il y a de visiteurs au château de Versailles, plus faire vivre ce palais de la République devient difficile. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans les 7 ou 8 millions de visiteurs annuels au château de Versailles, il deviendrait difficile, sinon impossible, de fermer comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a une élection présidentielle. Ça a pu être le cas pour la dernière fois avec le sommet du G7 de 1982 organisé à la demande de François Mitterrand au château de Versailles, mais le château a été fermé pendant presque 3 semaines, le parc pendant 2 mois, le Grand Trianon également pendant 2 mois, pour tous ces aménagements. Aujourd'hui, avec 7 ou 8 millions de visiteurs qui souvent réservent très longtemps à l'avance leur visite, ça devient quand même assez complexe.
Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'activité qu'il y avait au moment de la mise en place de cette République, hein, la Troisième République, on l'a dit, la Troisième République, c'est 1870, le 4 septembre, mais il faut attendre encore quelques années, 5 ans avant qu'elle s'affirme réellement, 1875.
Sous la double influence de la poussée républicaine et de la remontée impérialiste, l'Assemblée se résout à la République. Après d'innombrables discussions, le 30 septembre 1875, un savant helléniste, Henri Vallon, député modéré, défend l'amendement qui institue la République.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, il est rééligible.
Le texte est adopté à une voix de majorité. La République naît légalement de la résignation parlementaire.
L'amendement Vallon 1875, Henri Vallon, historien, helléniste, ça fait toujours du bien d'avoir des hellénistes hein, qui regardent la politique.
Je disais, si je me souviens bien, que c'était faute de présenter les choses comme ça, que si l'amendement a bien été adopté à une voix près, ensuite, quand on a revoté sur l'ensemble de la loi, la majorité était beaucoup plus importante. Et donc, c'est une manière un peu dramatique et spectaculaire de parler de l'adoption de la République à une voix.
Nous étions sur l'ORTF en 1969 avec tout ce programme mis en place, Christophe Leribaud, autour de ce 150e à Versailles et cette réflexion sur l'autre Versailles, c'est-à-dire le palais de la République. Alors, qu'est-ce qui est mis en place ?
Alors d'une part, on a ouvert le congrès.
La salle là, on peut la visiter.
La salle du congrès, alors le week-end, ouais. La présidente de l'Assemblée nationale a très facilement accepté, d'ailleurs, c'est, qu'on le fasse. On ouvre aussi l'appartement du président du Congrès, tout au bout de l'aile. C'est l'ancien appartement du comte de Provence, mais qui est entièrement refait par Edmond Joly en 1875. Avec des... Ça fait très ministère, avec les portes capitonnées, etc. Et on y a accroché toute une série de portraits de, des présidents élus à Versailles, de Jules Grévy, jusque des, y compris des portraits de Chanel, de Poincaré, etc., qui étaient en réserve. Alors c'est Marcel Bachet, c'est Léon Bonnat, c'est très officiel, et c'est des tableaux qu'on va laisser d'ailleurs dans cet appartement, puisque même s'il est utilisé une fois tous les quatre, ou enfin bon, de temps en temps, ce sera très bien d'y avoir ces effigies. En amont, on a ouvert aussi maintenant tous les jours, sauf le lundi, la salle du jeu de paume. Et puis, depuis avril, on a ouvert les appartements de De Gaulle à Trianon-sous-Bois pour montrer, c'est une année républicaine qui montre un petit peu différents aspects de la vie à Versailles jusqu'à présent.
Oui, parce que dans le Versailles des présidents, Fabien Opperman, il y a le palais lui-même, et puis il y a ces à côté aussi du palais. Alors, on évoque ici ces lieux qui sont plus des résidences destinées au président, mais l'ensemble fait comprendre ce qu'est le palais de la République. Hein. Et il est complexe, parce qu'il demeure dans le même temps toujours un musée.
Tout à fait. Alors, l'utilisation par la République jusqu'au général de Gaulle, elle a été un petit peu aléatoire. C'est-à-dire, on ne savait pas trop s'il fallait organiser des dîners, des déjeuners dans la galerie des glaces, dans la galerie des batailles, dans la galerie basse. Et c'est de Gaulle, en 1959, qui va construire un vrai projet républicain pour le château de Versailles, qui va devenir le lieu où l'on reçoit avec faste ses homologues étrangers. On pense à la réception de Kennedy en 1961, qui est extraordinaire. Donc, dîner dans la Galerie des Glaces pour la première fois depuis 1873. Et pour cela, on va électrifier la Galerie des Glaces pour pouvoir y organiser des dîners. Avant, ça n'était pas possible, puisque le soir, il faisait nuit, et donc on ne pouvait pas y rester. Et il va surtout aménager le Grand Trianon pour y concevoir le logement des chefs d'État étrangers, ainsi que son propre logement. De Gaulle aurait dit « je ne peux pas recevoir mes homologues si je ne suis moi-même pas logé sur place ». Donc il y a l'appartement des chefs d'État étrangers où la reine Elisabeth II, dans les années 1970, a logé, et puis l'appartement du président de la République, donc au bout du Grand Trianon, dans l'aile de Trianon-sous-Bois, appartement qui n'a finalement quasiment jamais été utilisé, hormis par Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, et puis les grandes réceptions du général de Gaulle sont restées dans les esprits, effectivement. Le président Kennedy et Jacques.
Monsieur le Président, la France félicite de recevoir votre visite et elle en mesure toute la signification. Elle éprouve en effet le sentiment qu'à travers vous, elle prend un contact direct avec les États-Unis, d'abord parce que vous êtes leur président, et puis parce que vous lui apparaissez comme essentiellement représentatif de la Grande Amérique, confronté avec les durs problèmes de notre temps.
Le général de Gaulle en 1961, qui accueille le président Kennedy au château de Versailles. Jacqueline Lallouette, vous êtes spécialiste de toutes ces questions mémorielles. D'ailleurs, je signale votre ouvrage « L'identité républicaine de la France, une expression, une mémoire des principes » qui a reçu le grand prix Gobert de l'Académie française, mais aussi pour l'ensemble de votre œuvre, parce qu'on pourrait citer tous vos ouvrages les uns après les autres. C'est cette réflexion-là qui fait que, et on le sait bien, chaque nouveau pouvoir se dit être la synthèse de tout ce qui s'est passé auparavant et reprend sans cesse des symboles. Sauf que là, avec Versailles, on a un concentré de symboles. Et c'est passionnant de voir ces soleils rayonnants et quelques symboles républicains qui sont là.
Je me demande avec honte si j'ai parlé de Versailles dans l'identité républicaine de la France. Et je crains que... Je ne suis pas sûre, mais je crains que non. Et j'en ai grand honte.
Christophe Leribaud vous regarde et vous pardonne tout de suite. Ce sera pour la prochaine édition de Mettre un chapitre entier.
Mais alors on pourrait, puisque on a parlé des visites d'Elisabeth II, il y en a eu trois, celle des Kennedy, il y a eu aussi le roi Baudouin, et la reine Fabiola. Et puis, beaucoup plus récemment, on a eu une rencontre assez étonnante à Versailles en 2017, je crois, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et leur grande promenade dans les jardins. J'ai lu des commentaires un peu acerbes sur cette rencontre. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'avoir utilisé Versailles pour recevoir Poutine, mais enfin, vous en parlerez mieux que moi. Et puis, on a dit aussi qu'Emmanuel Macron avait utilisé à son profit la grandeur monarchique de Versailles pour essayer d'éblouir Poutine, de le mettre en position de dominer, lui étant le dominant recevant dans les vieux ors de la France.
Christophe Leribaud.
Alors, il faut dire qu'à Versailles s'ouvrait une exposition consacrée à Pierre Ier, qui avait été inscrite au programme, sans doute un peu poussée par l'ambassade de Russie, mais en amont de l'élection du président. Donc, une semaine après l'élection du président Emmanuel Macron, il y avait un événement russe auquel
Poutine
comptait venir. Bon, il aurait pu l'empêcher de venir, mais on l'a vu, hein, il vaut mieux essayer de discuter que de...
Ah bah oui, puis Versailles c'est fait pour ça. La construction de Versailles par Louis XIV, c'est aussi pour éblouir. Alors ce serait ballot que les présidents de la République ne l'utilisent pas ainsi.
C'est tout à fait cela. Le Emmanuel Macron n'est pas le premier, loin de là. Tous les présidents depuis 1871 ont utilisé le château de Versailles à ses fins diplomatiques pour à la fois honorer et, d'une certaine manière, impressionner. Il y a, avec la Russie et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, quelque chose d'assez symptomatique, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu affirmer médiatiquement, sur le plan mondial, la force des relations bilatérales avec le Royaume-Uni ou avec la Russie, ça s'est passé par une réception assez fastueuse au château de Versailles. C'est le tsar de Russie en 1896. Ouais. C'est Boris Yeltsin en 1992 qui est le dernier chef d'État étranger à loger au Grand Trianon. C'est Vladimir Poutine qui est reçu une semaine après ou 10 jours après par Emmanuel Macron à Versailles. Et pour l'Angleterre, c'est la même chose. C'est 1865, l'entente franco-russe entre la reine Victoria et Napoléon III. C'est 1938, un an avant la Seconde Guerre mondiale, où il faut donc affirmer la force de l'Europe face à la montée des fascismes. C'est donc George VI qui est reçu très fastueusement par Albert Lebrun. 1957, on l'évoquait, un an après la crise de Suez, l'Angleterre et la France ont été un petit peu bousculées et donc il faut réaffirmer cette amitié franco-britannique en invitant la reine d'Angleterre à l'inauguration de l'opéra. Charles III, 1972, la reine d'Angleterre à nouveau, on est à un an avant l'adhésion à l'Union européenne, donc on montre que l'Angleterre et la France sont des partenaires européens extrêmement forts. Et 2023, Charles III, on est quelques années après le Brexit, il faut à nouveau réaffirmer, renforcer, retrouver la force des relations franco-britanniques. Et donc, on rouvre en très grand le palais de Versailles pour Charles III.
Jacqueline Lalouette.
Et il faut parler aussi de l'Allemagne et de 1919 et de la signature du traité dit de Versailles précisément. Et là, on est dans un tout autre cas de figure.
Parce que là, on peut remonter à la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces en 1871.
C'est ça. L'un répondant à l'autre, d'ailleurs.
Non, mais on voit se concentrer d'histoire et de mémoire. C'est ça qui est passionnant absolument à Versailles. Pour ce qu'il est lui-même, ce palais, pour ce qu'il est devenu après, utilisé de manière différente, et puis sur son utilisation. Et la mémoire, vous l'avez dit avec justesse, Jacqueline Lalouette, c'est ce qu'on garde. Et il y a aussi ce qu'on efface. On retourne dans la galerie des batailles avec Pierre Nora.
Alors c'est assez extraordinaire pour un historien de la mémoire que j'étais de voir cette réutilisation d'un lieu aussi fortement marqué par la centralisation monarchique redevenir ou devenir une sorte de grande évocation muséographique de la France. Alors, il faut dire tout de suite que c'est une ruine de ce projet que nous voyons pratiquement. Parce que le grand conservateur qu'a été à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, Pierre de Nolhac, sous la Troisième République, n'a eu de cesse de détruire tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de Louis-Philippe pour retrouver les décorations et la grandeur de Louis XIV, à un moment où, où Versailles était au fond, pas en odeur de sainteté dans la République, parce qu'elle était marquée par la monarchie elle-même. Donc c'était une entreprise qu'il considérait comme un grand sauvetage de mémoire, lui aussi. Et il a très largement détruit ce que Louis-Philippe avait fait. Il n'en reste précisément que cette galerie des batailles, qui est l'illustration de toutes les grandes gloires militaires de la France, et se termine par son apothéose de 1830, de sa prise de pouvoir.
Nous étions en compagnie de Pierre Nora avec Emmanuel Laurentin dans la galerie des batailles du château de Versailles. C'était en 2013. Christophe Le Ribaud. Alors, peut-être déjà rappeler ce que c'est que cette galerie des batailles.
Alors effectivement, quand Louis-Philippe trouve une affectation véritable au château de Versailles, qui était un peu une coquille vide, hein, puisque les tableaux étaient partis au Louvre, les antiques, les livres à la Bibliothèque nationale, on avait vendu à l'encan les lustres, les porcelaines, les meubles, etc. Donc c'était quand même très vide.
C'était les années 1830. Hein.
Voilà, et donc aussi bien Louis XVIII, Charles X, qui avaient vécu dans leur jeunesse dans le château, auraient bien aimé pouvoir s'y réinstaller, mais politiquement c'était trop difficile de quitter Paris, les Tuileries. Louis-Philippe certainement en rêve aussi, mais il a ce projet politique, évidemment plus intelligent, d'en faire un grand musée de l'histoire de France, en y intégrant le Moyen-Âge et les blasons de toutes les vieilles familles françaises, mais aussi en consacrant des espaces à la Révolution, énormément d'espaces à l'Empire, et puis finalement des salles aussi consacrées à la conquête de l'Algérie, où on voit ses fils à l'action. Donc finalement, il réussit, en suivant ce chantier, à être au minimum, au moins une fois par semaine à Versailles, donc il logeait bien plus que tout autre, il met des LP partout dans le château. Alors, mais il ne reste pas que la galerie des batailles, fort heureusement. Simplement, il est vrai que beaucoup d'espaces étaient très peu montrés, c'est-à-dire que, justement, les salles des croisades, on essaie de les ouvrir le plus possible, ces salles consacrées à la conquête de l'Algérie sont murées, si je puis dire, puisque ce sont nos salles d'exposition et tous les décors de Vernet sont recouverts. On les a retirés pendant quelques temps pour une exposition Vernet et pour l'exposition Guillaume Bresson qui vient de se terminer. On va recouvrir à nouveau ces grands décors pour pouvoir présenter les expos suivantes. Mais mon projet est vraiment de pouvoir redégager le plus possible ces espaces du Versailles de Louis-Philippe, pouvoir montrer, reconstituer même ces salles consacrées à l'Algérie, consacrées aussi, c'est le Versailles de Napoléon III, la guerre de Crimée, les guerres d'Italie, qui sont coffrés, démontés, en réserve, etc. Les espaces sont là, de toute façon on ne peut pas recréer tous les appartements des courtisans qui avaient été détruits sous Louis-Philippe, puisque la cour n'y résidait pas, contrairement à Fontainebleau ou Compiègne, mais on peut redonner du lustre à ces salles et en faire des vraies plateformes très intéressantes pour les historiens, mais surtout pour le public général, pour entrer dans la complexité de ce 19e siècle, des combats de prééminence entre les Anglais, les Russes, les Français. C'est une manière aussi d'attirer, j'espère, davantage de public français pour insister sur cette continuité historique de Versailles, bien au-delà de la Révolution.
Avec la certitude, quand on visite la Galerie des Glaces et la Galerie des Batailles et d'autres salles, de se dire, mais ça je l'ai déjà vu, mais ça je l'ai vu, parce que ce sont toutes les illustrations de nos manuels, les couvertures de livres.
Absolument.
Merci à Louis-Philippe d'avoir fourni tant d'images du passé complètement reconstruites, Jacqueline Lalouette.
Si vous rouvrez complètement la salle où se trouvent tous les tableaux de Vernet sur la conquête de l'Algérie, j'imagine que ça va vous attirer des critiques incendiaires. Ça va être considéré comme politiquement très incorrect.
Eh ben, on l'a fait, profitant que les relations avec l'Algérie n'étaient pas au mieux. Et finalement, il n'y a pas eu de réaction hostile. Mais c'était à l'occasion aussi d'une exposition d'art contemporain qui mettait en comparaison les violences urbaines actuelles et la conquête de l'Algérie. Mais c'est un test. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux montrer, expliquer, discuter, que ce soit des sortes de plateformes, plutôt que de cacher tout ça. Ensuite, on a des kilomètres de salles consacrées à l'Empire, version bataille. Oui. Qu'on essaie là aussi d'ouvrir. On est en train aussi d'électrifier toute une attique pour pouvoir ouvrir ces salles du 19e siècle. Il va falloir avoir un peu de pédagogie pour montrer que l'histoire, ce n'est pas que ça. Mais c'est important de montrer toutes ces images, effectivement, qui émaillent tous les livres d'histoire. Oui. Hein, parce que ces peintres étaient très efficaces pour représenter les événements du passé.
Ah oui, c'est magnifique. Non, mais c'est certain. Et puis, c'est cette synthèse aussi que Louis-Philippe, dans les années 1830-1840, souhaitait réaliser. Mais comme tout le monde, ils ont tous essayé de faire ça. Est-ce qu'on peut dire, Fabien Opperman, que ces présidents de la République sont un peu dans cette démarche-là? C'est-à-dire qu'ils associent Versailles dans cette grande narration d'une histoire de France, qui est, pour Pierre Nora, d'ailleurs, un objet d'étude lui-même. C'est ce lieu de mémoire, c'est cette construction d'une mémoire commune.
C'est probable, même si, initialement, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu le fruit du hasard. Aujourd'hui, utiliser le château de Versailles, c'est vraiment inscrire ses pas dans la longue histoire de France. Lorsque le président Macron reçoit Charles III, il est à la fois l'héritier du général de Gaulle, il est l'héritier des présidents de la Troisième République, il est l'héritier des souverains qui ont fait la même chose dans les mêmes lieux, donc au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc il y a en effet l'idée que Versailles est associé non pas à l'histoire de la monarchie, ou à l'histoire de la République, mais tout simplement, c'est un des lieux de mémoire de l'histoire de France, voire de l'histoire du monde, puisque la diplomatie du monde se construit aussi dans ces lieux. Il est assez amusant de considérer, de constater qu'il n'y a pas en France un musée de la République.
Jacqueline Lalouette,
en tout cas,
la parole est à vous.
Il y a eu à Versailles en 1995 un petit musée du Parlement qui s'est installé au château de Versailles. Il y a le musée évidemment de la Révolution à Vizille, il y a beaucoup de musées, mais la synthèse de tout cela en usage, c'est aussi au château de Versailles.
Jacqueline Lalouette, il est où votre musée?
Excusez-moi, j'ai réagi vivement. J'espère que je ne vais pas trahir les secrets du grand juriste qu'est Didier Mauss, mais il est en train de créer un musée de la République qui doit s'ouvrir à Avon, avec à la base sa propre collection de tout ce qui touche à la République, des bustes de Marianne, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et cette initiative extraordinaire qu'il prend avec le soutien de la municipalité d'Avon. Et effectivement, il faisait remarquer à l'origine que c'est étonnant qu'il n'y ait pas de musée de la République.
Et notamment de musée porté par la nation, notamment le ministère de la Culture.
Oui. Avon, ça se trouve en Seine-et-Marne.
Oui, près de Fontainebleau.
Et si l'on évoque des musées qui doivent ouvrir, l'année prochaine, nous allons créer un musée de l'indépendance américaine dans l'ancien appartement du comte de Vergennes pour célébrer donc les 250 ans de l'indépendance américaine, dont beaucoup de d'étapes ont été décidées, signées, négociées à Versailles pendant toutes des années. Et comme nous avons beaucoup d'œuvres en réserve qui représentent des portraits, des scènes, des batailles, etc., on va pouvoir créer cet espace pour rappeler, quoi qu'il en soit, la place de la relation franco-américaine, même si ça peut paraître un petit peu étonnant de faire ça dans la conjoncture actuelle, mais nous sommes sur le temps long à Versailles.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est un lieu de mémoire pour beaucoup de nations.
Lafayette sera votre grand homme.
Avec des galeries de la Révolution à Versailles, à l'intérieur de ce musée imaginé par Louis-Philippe. Et là aussi, Christophe Leribaud, il y a tout un travail à faire d'ouverture. On le sait bien, c'est tout un jeu d'ouverture au public et c'est l'occasion de quitter ce Versailles absolument sensationnel qu'on associe souvent à Louis XIV, mais qui en réalité mérite qu'on s'arrête au temps de Louis XV et de Louis XVI. Pour aller voir cet autre Versailles d'après. Donc c'est tout un parcours, et là vous le dites, c'est clairement destiné à un autre public que des visiteurs étrangers, qui viendront aussi, qui en seront ravis, parce que ce sont des histoires qui parlent, et vous l'avez évoqué notamment sur le Premier Empire, mais c'est vraiment cette réflexion-là, de dire, je propose l'autre Versailles pour élargir encore un public, et tout simplement la connaissance. Je vais vous dire, personnellement, la Galerie des Batailles, c'est toujours un moment d'exception à vivre comme visite.
Ah bah quand même, Delacroix, Vernet, quantité de Baron Gérard, de très, très belles œuvres. On a ouvert les salles de la Révolution pendant la période de Noël, et pendant 15 jours, on a eu 30 000 visiteurs pour voir l'esquisse du serment du jeu de paume de David, le marat dans sa baignoire, quantité de tableaux souvent reproduits, rarement vus. Donc ce qu'il souhaite vraiment, c'est progressivement ouvrir par phase certaines sections du musée, les rendre du coup visibles, c'est-à-dire avec des sièges, de l'électricité, des cartels, etc. Et dans l'espoir d'arriver un jour, de pouvoir tout ouvrir en permanence.
N'oublions pas tout de même que les visiteurs étrangers de certaines nationalités sont marqués par cette histoire contemporaine du château de Versailles. Dans les années 1920-1930, les visiteurs allemands qui visitaient le château de Versailles étaient très émus en visitant la Galerie des Glaces, lieu pour eux de ce diktat, de l'horreur, ce qu'ils considéraient comme le traité de Versailles de 1919. De la même manière, les Hongrois à Trianon, puisque le traité qui met fin à la guerre avec la Hongrie en 1920 est signé au Grand Trianon. Le nom de Trianon est encore honni chez certains Hongrois un peu nationalistes, parce que ce traité de 1920 acte la fin de la Grande Hongrie, d'un pays qui était très puissant avant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a tout de même des nationalités. Christophe mentionnait les Américains. Le lien de Versailles avec les États-Unis à partir des années 1780 et encore aujourd'hui est très très fort. Rockefeller, le président américain qui vient en France pour justement la signature du traité de 1919. C'est la première fois qu'un président américain se rend officiellement en Europe et il va y résider en plus plusieurs semaines. Donc il y a tout de même, je pense, un possible attachement d'un certain public étranger à la visite d'un Versailles contemporain.
Voilà, et puis avec ces visites de grands souverains, on a des moments fort des cérémonies de la reine Victoria en 1855 à Charles III en 2023, de tout ce qu'on a pu évoquer. Et puis après, il y a les institutions de la République installées à Versailles, et là aussi une vraie politique de mémoire. Écoutez Pierre Nora qui s'exprime sur les fondateurs de la République.
On discerne bien quel a été le problème de ces fondateurs de la République, qui a fait de la République finalement tout entière une forme de mémoire et de référence historique. Voilà des gens, il faut bien se rendre compte, et on l'oublie aujourd'hui, qui se sont trouvés devant des situations où tout était à faire, devant une France que leur propre historiographie nous a appris à croire unitaire, mais qui en fait était encore faite de pièces et de morceaux, cette France. Que nous croyons précisément à cause de l'œuvre des Républicains que la France républicaine a été comme une évidence et un acquis, alors que les Républicains de 1880 se sont trouvés devant des masses analphabètes, inorganisées, dans une France sans parti politique, où le suffrage universel était à beaucoup d'égards une nouveauté, bref, où, d'une certaine façon, était à inventer un imaginaire collectif qui soudait la nation tout entière et des filières très précises comme le suffrage universel, comme l'école, comme le service militaire obligatoire, qui ont véritablement été des organes d'unification nationale.
Pierre Nora, dans les lundis de l'histoire, nous étions en 1985. Jacqueline Lalouette, il y a toute cette pertinence de réflexion autour de la mémoire.
Toute la culturation à la République du peuple français. Et Pierre Nora, qui, outre les 6 ou 7 articles qu'il a fait dans ses lieux de mémoire, a fait plusieurs textes introductifs qui sont absolument extraordinaires et dans lesquels il explique que dans les années 70-80, etc., on passe d'une histoire nationale à la construction d'une mémoire nationale. Et j'aurais aimé qu'on rappelle, et il le dit lui-même d'ailleurs, que cette recherche d'une mémoire nationale correspond par ailleurs à un moment où dans la sensibilité collective, indépendamment de cette construction d'une mémoire, etc., il y a dans la sensibilité collective un besoin de la mémoire, et il dit même une tyrannie de la mémoire. Et on peut rappeler que c'est précisément dans ces années que sont publiés plusieurs grands livres de souvenirs et de mémoire qui ont un succès extraordinaire, qui sont peut-être un peu oubliés maintenant. On pense évidemment au Cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Hesselias. Lui, je pense qu'il n'a pas disparu des souvenirs et de la culture. Mais il y a 2 autres livres dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui ont un grand succès. C'est « La soupe aux herbes sauvages » d'Émilie Carle. Et puis, c'est un livre de Serge Grafteau qui s'appelait « Augustave Moïse, la vie d'un paysan ». Augustave, parce que le père voulait l'appeler Auguste et la mère Augustave, on a fait Augustave. Donc, il y a tous ces livres, et puis il y a tout le lancement des recherches généalogiques par les Français qui voulaient faire leur arbre généalogique, les sites de généalogie. Et il y a en 1978 l'apparition, la création de la direction du patrimoine. Et tout ça, ça correspond bien au lancement des lieux de mémoire. Et puis, on peut dire que les lieux de mémoire eux-mêmes ont amené des historiens ou historiens d'art, ou parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont représentées dans les lieux de mémoire, historiens, historiens d'art, juristes, géographes, politologues, sociologues, et dans les historiens, des antiquisants, des médiévistes, etc., etc. Donc ça a incité à d'autres travaux. Et par exemple, dans les lieux de mémoire, Pierre Nora écrit dans je ne sais plus quel texte introductif qu'il n'y a pas de vraie histoire du drapeau. Eh bien ensuite, il y a, bien plus tard, hein, Bernard Richard, petite histoire du drapeau français. Il dit qu'il n'y a pas de véritable histoire de la Marseillaise. Eh bien après, il y a la grande histoire de Frédéric Robert avec une introduction de Michel Vauvel, et il y a une histoire de la Marseillaise d'un autre historien de la Révolution, Hervé Luxardo. Il parle de l'histoire du silence. Eh bien, on a eu, il y a quelques années, une histoire du silence d'Alain Corbin. Et puis, il dit quelque part qu'il faut faire venir au jour, si on peut dire, les ombres et la lumière. Eh bien, Christian Amalvi, en 2016, écrit « Les ombres et la lumière du sud de la France, les lieux du sud de la France, les lieux de mémoire du Midi », et il remercie Pierre Nora de l'avoir autorisé à utiliser son concept, et il le remercie avec beaucoup de gratitude. Et puis enfin, il y a cette nouvelle histoire de la France d'Éric Anceau qui va sortir au mois de septembre, je crois. Et Éric Anceau, à qui j'ai parlé récemment, m'a autorisé à dire qu'il avait eu des échanges avec Pierre Nora et que Pierre Nora lui avait dit « Eh bien, vous faites en fait de nouveaux lieux de mémoire. » Parce qu'en 1997, Pierre Nora avait bien dit « Ces lieux de mémoire, c'est une mémoire figée en un temps donné, mais ça peut évoluer, ça doit évoluer. » Et il expliquait d'ailleurs qu'entre les tomes de 84-93 et l'édition en quarto en 97, il aurait fallu faire une mise à jour pour faire apparaître des sujets qui n'étaient pas traités, mais que cette mise à jour avait été techniquement impossible en réalité.
Et donc, voilà, c'est ça, parce que les lieux de mémoire, ce sont trois volumes, La République, La Nation, Les France, avec l'idée que Versailles se trouve dans le chapitre, dans le volume Nation. Il aurait pu être dans le volume République, Christophe Leribaud.
Il aurait pu être partout,
parce que c'est ça, Versailles, c'est à la croisée de toutes ces mémoires. Ça va avec tout.
Jusqu'aux Jeux Olympiques, qui ont eu beaucoup de visites.
Et à Chose-France.
Ah oui, Choose France récemment, avec le président Macron, qui met en avant la valeur française. C'était intéressant de voir comment les présidents se sont accaparés Versailles, mais dans une logique en fait historique. Fabien Permane, c'est ce qu'on voit dans le Versailles des présidents, ce faste, cet apparat qui fascine tant encore aujourd'hui les visiteurs, les visiteuses à Versailles, c'est ce faste de la République. La République s'accommode très bien de ce faste monarchique.
La République est chez elle à Versailles. Il y a un faste qui... mais on le dit au-delà du château de Versailles. Le protocole républicain reprend pour partie une forme d'usage monarchiste du 19e, voire d'avant. Et Versailles en est, on va dire, l'une des incarnations. Mais en effet, lorsque le président Macron décide d'organiser chaque année le sommet de Choose France au château de Versailles, à nouveau, ça n'est pas anodin, parce que c'est dans un lieu qui symbolise cette continuité, cette longévité, mais également l'excellence de l'artisanat français, de l'art français, de l'industrie française, à la fois en matière architecturale, en matière de décor, en matière d'innovation technologique. Eh bien, il dit, voilà ce que la France est capable en 300 ou 400 ans de réaliser, et le sommet de Choose France, ça a vocation à être la continuité de cette construction du château de Versailles.
Christophe Leribaud.
Mais c'est aussi un haut lieu de l'école républicaine. C'est une autre mission, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui viennent, qu'on prend en main, qui parcourent les salles, qui vont jusqu'à la salle du jeu de paume. C'est un lieu d'apprentissage. très très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner Versailles au tourisme, même si on les aime bien, évidemment, c'est du prestige, et puis on est très heureux aussi d'être touriste ailleurs, mais c'est un lieu qui doit vraiment rester vivant pour nous tous.
Et alors, pour les gens également qui travaillent à Versailles, sachant qu'il y a des savoirs et des savoir-faire absolument exceptionnels qui sont à Versailles encore en activité. Hein. Et je pense aux fontainiers, je pense à tous ces métiers-là. Versailles, c'est aussi un lieu, on pourrait parler des jardins aussi, un lieu extrêmement important pour la transmission des savoirs.
Il y a aussi bien des historiens, un centre de recherche et des archivistes, que des fontainiers qui font ce travail extraordinaire depuis Louis XIV, des jardiniers. Et on développe un campus des métiers d'art, justement, pour promouvoir tous ces métiers qui ne sont pas que passéistes, qui sont ouverts sur l'avenir. Mais il faut évidemment transmettre ces savoir-faire, déjà pour pouvoir continuer à restaurer le château, mais diffuser toutes ces prodigieux savoir-faire qui se manifestent dans Versailles.
Parce que parler d'histoire, parler de mémoire, c'est aussi parler de l'avenir.
L'itinéraire de ce livre, Philippe Levillain, il est très simple. Quand je suis entré aux hautes études, j'ai voulu travailler sur la mémoire nationale, qui était mon sujet depuis longtemps. Plutôt que des généralités sur la mémoire ou sur la nation, j'ai préféré m'intéresser à des lieux où cette mémoire nationale s'était exprimée, condensée et incarnée. Et à ma grande surprise d'ailleurs, comme à celle des collaborateurs du séminaire, ces lieux n'avaient très souvent pas été étudiés, à commencer par les plus flamboyants, les plus emblématiques, comme le drapeau tricolore, ou comme la Marseillaise, ou comme le Panthéon. Au départ, j'imaginais, disons, un recueil de papiers de séminaire, échantillonnesque, étant donné que c'était plutôt la nature du regard et l'originalité de l'approche sur ces objets presque à caractère ethnographique sur lesquels nous posions un regard à la fois rafraîchi et érudit qui faisait l'intérêt de la chose.
C'est Pierre Nora qui échangeait avec Philippe Levillain, le spécialiste du catholicisme, oui, de la papauté, Jacqueline Lalouette. On l'a bien senti dans ce que vous nous disiez, il y a un avant et un après les lieux de mémoire de Pierre Nora, et ne serait-ce que par les travaux que ça a pu conduire par la suite, mais pas seulement. On sent qu'il y a eu un vrai écho au-delà du monde des historiennes, des historiens. Il y a eu un écho public.
Il y a eu un écho public qui s'explique par le livre lui-même, si je puis dire, par ce besoin de mémoire dans la sensibilité collective dont parlait Pierre Nora, mais aussi par le fait qu'on est là à une époque où l'histoire est là, parmi les sciences humaines, celle qui a le vent en poupe, celle qui occupe le devant de la scène, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Donc, c'est tout un contexte où l'histoire apparaît comme une science humaine glorieuse qui va de l'avant, qui est illustrée par de grands noms, de grands livres.
Oui.
Et c'est plus la même chose maintenant.
Dans le Versailles des présidents, Fabien Opperman, voilà, il y a quand même l'importance pour un président, au moins pour son entourage, de maîtriser l'histoire, parce que tout est symbole sans cesse, et dans le lien que peuvent avoir les présidents à Versailles, c'est vraiment cela, c'est comment s'inscrire dans cette histoire-là sans être ridicule, ce qui peut être difficile, et en étant cohérent avec une politique qui est conduite à un moment précis de notre histoire.
En effet, du coup, tous n'ont pas utilisé le château de Versailles ni de la même manière, ni avec la même ampleur. Le château de Versailles est très utilisé après le fameux projet de Gaulle des années 60, dans les années 1970, où Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou utilisent beaucoup le château de Versailles. Et puis en fait, ça va s'amenuiser à partir de François Mitterrand. L'apogée, c'est vraiment le sommet du G7, mais après, on va l'utiliser de manière exceptionnelle. Et cette exception devient le symbole.
Merci vivement à vous, Fabien Opperman. Je rappelle le Versailles des présidents. Quant à vous, Jacqueline Lalouette, mais il y a tous vos ouvrages. Il y a cette identité républicaine de la France. Et puis, on attend vos trois fleurs de la nation, le drapeau, l'hymne et la devise. On voit bien ces réflexions qui se poursuivent. Et Christophe Le Ribaud, il n'y a plus qu'à aller à Versailles pour visiter cet autre Versailles, celui de la République. Pour terminer, on va laisser la parole à Pierre Nora, qui était venu dans le cours de l'histoire il y a quelques temps. C'était pour nous parler de son ouvrage, Une étrange obstination.
D'abord, laisser un témoignage avec le sentiment que je que j'en avais le devoir, que j'avais été, par la force des choses, au cœur d'une des époques les plus effervescentes ou créatrices intellectuellement de la France contemporaine, que j'avais été à une place privilégiée et que je me devais de laisser sur cette époque un témoignage aussi vivant que possible. Ça m'a beaucoup travaillé.
C'était Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloumel, Vincent Randonnier et Mayo Nguizhou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.